de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, voici la voix de l'Indonésie présente le journal aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements à informer, entre autres. L'ONU espère que l'Indonésie encouragera les G20 à investir davantage dans le secteur des catastrophes. Les Nations Unies apprécient la gestion de COVID-19 en Indonésie. Le président chinois rencontre le commissaire aux droits de l'homme lors d'une visite au Tianjin. Les Émirats Arabes Unis annoncent le premier cas de monkeypox. Scofindo optimiste que l'Indonésie puisse stimuler l'industrie halal. BRN développe une base de données de jeunes talents indonésiens. Et le ministre indonésien de l'Industrie s'engage à soutenir la prévention des catastrophes avec des produits locaux. Pour chercher tard, voici les nouvelles incomplètes. Secrétaire général adjoint des Nations Unies, ONU, Amina G. Mohamed, espère que l'Indonésie, en tant que présidente du G20 cette année, pourra encourager les pays membres à investir davantage dans le secteur de la gestion des risques des catastrophes. Les raisons que les divers programmes et actions pour réduire les risques de catastrophes au niveau national, régional et mondial ont besoin d'un financement durable. Amina, après avoir assisté à l'ouverture de la 7e session de la plateforme mondiale pour la réduction des risques de catastrophes à Nusa Dua Badung Bali, a déclaré mercredi que son parti réalise que l'Indonésie, en tant que président du G20, peut transmettre le message concernant l'importance d'augmenter les investissements dans les programmes et les actions visant à réduire les risques de catastrophes. Selon elle, le message est important pour l'Indonésie de faire écho au sommet du G20 pour être tenu à Bali en octobre et novembre 2022. Le président de l'Assemblée générale des Nations Unies, ONU, Abdullah Shahid, a exprimé son appréciation pour la gestion de la pandémie de COVID-19 en Indonésie. Abdullah Shahid l'a transmis dans ses remarques à la 7e session de la plateforme mondiale pour la réduction des risques de catastrophes 2020 qui s'est tenue au Bali Nusa Dua Convention Center, Badung Bali, le mercredi 25 mai 2022. Abdullah Shahid a également exprimé sa gratitude au gouvernement indonésien pour avoir accueilli la plateforme mondiale pour la réduction des risques de catastrophes en 2022 au milieu de la reprise mondiale de COVID-19. La même chose est également venue de la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Amina Jan Mohamed, qui a apprécié un certain nombre de mesures et de politiques prises par le gouvernement indonésien pour gérer la pandémie de COVID-19 dans le pays afin que la conférence de plateforme mondiale pour la réduction des risques des catastrophes 2020 puisse se tenir en face à face et en toute sécurité. Elle a également apprécié le leadership de l'Indonésie pour son programme de vaccination visant à protéger tout le monde. Le président chinois Xi Jinping a tenu une réunion virtuelle avec la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, mercredi. La réunion s'est tenue en marge de la visite de travail de Bachelet à Huangzhou, dans la province de Guangdong et dans la région autonome du Xinjiang, le 23 jusqu'au 28 mai. Sur la base des principes d'égalité et de respect mutuel, la Chine est prête à dialoguer activement sur les droits de l'homme et à coopérer avec divers partis pour favoriser la compréhension mutuelle, éviter les différences, apprendre les uns des autres et avancer ensemble. C'est tout la déclaration de Xi Jinping publiée par le ministère chinois des Affaires étrangères. Entre-temps, Bachelet a exprimé sa gratitude aux dirigeants chinois qui étaient disposés à accepter sa visite, même au milieu de la flambée des cas de COVID-19 dans diverses régions. Le ministère de la Santé et de la Prévention des Émirats Arabes Unis a annoncé l'émergence du premier cas de monkeypox dans le pays. Selon le rapport de l'agence de presse WAM, cité de Jakarta mercredi, la découverte du premier cas était en ligne avec la politique des autorités sanitaires des Émirats Arabes Unis concernant la détection et l'observation précoce de la maladie. A expliqué le ministère de la Santé, le premier cas de monkeypox a été détecté chez une femme de 29 ans arrivée d'Afrique de l'Ouest. La femme a été signalée à avoir reçu les soins de santé nécessaires. Le gouvernement a également confirmé que les autorités sanitaires ont pris les mesures appropriées requises, y compris les enquêtes, vérification des contacts et l'observation de la santé du patient atteint de la maladie. Sukofindo SA, comme l'a déclaré l'agence d'inspection halal, l'Indonésie est en mesure de réaliser l'amélioration de l'industrie halal nationale. L'agence est prête à soutenir les efforts pour y parvenir. Chef de la sous-direction commerciale de Sukofindo SA, André Esfandiari, dans sa déclaration à Jakarta mercredi, a déclaré 2020 et l'année 2021, les dépenses de consommation en Indonésie ont diminué en raison de la pandémie, mais il est optimiste. Grâce à son rôle d'agence d'inspection halal, Sukofindo pour soutenir l'amélioration de l'industrie halal. Auparavant, le ministre indonésien du Tourisme et de l'économie créative, Sandiaga Uno, a déclaré que l'agence d'inspection halal Sukofindo SA est un élément important dans la mise en œuvre de la certification halal et la mise en œuvre des produits halal. L'Agence nationale de la recherche et de l'innovation BRIN développera une base de données de jeunes talents indonésiens pour améliorer la qualité et autonomiser les jeunes talents afin de soutenir le développement de ressources humaines indonésiennes supérieures. Adjoint aux ressources humaines pour la science et la technologie BRIN, Edi Giri Rahman Putra, lors du webinaire virtuel des jeunes talents qui a eu lieu à Jakarta, déclaré mercredi, BRIN à l'avenir sera plus actif et adaptatif dans la gestion des jeunes talents en répondant aux besoins des jeunes talents dans diverses régions ainsi qu'en comblant le rôle de BRIN dans l'autonomisation des jeunes talents. Dans la gestion des jeunes talents, BRIN prépare un plan directeur pour les activités de développement des jeunes talents dans le domaine de la recherche et de l'innovation conformément au cadre de gestion des talents de la recherche et de l'innovation. Le ministère indonésien de l'Industrie s'est engagé à continuer d'améliorer la capacité de l'industrie nationale à soutenir les efforts de prévention et d'intervention liés aux catastrophes en Indonésie. Personnel d'experts du ministre de l'Industrie pour le climat des affaires et des investissements de la République d'Indonésie, Andi Rizaldi, vers sa déclaration reçue à Jakarta mercredi, a déclaré qu'il est nécessaire de développer des technologies et des innovations de produits ou des équipements pouvant être utilisés dans la gestion des catastrophes. Andi l'a dit lors qu'il était une ressource pour la discussion à l'exposition et à la conférence sur la gestion des catastrophes et la protection civile en Asie, ADEXCO 2022 à Nusa Dua, Bali. Andi a expliqué un certain nombre de produits industriels de l'industrie nationale liés aux efforts de prévention et de gestion des catastrophes ont pu concurrencer les produits importés. En fait, bon nombre d'entre eux ont été commercialisés à l'étranger. Cependant, selon Andi, le potentiel du marché intérieur est encore très important pour l'industrie nationale à saisir. Bonjour, Jitar, c'est toutes les nouvelles d'aujourd'hui.
C'est Zeritok, bonsoir. Voici le camp diplomatique et pour le titre, 20 citoyens indonésiens reviennent de Syrie à travers le programme de rapatriement de la 5e vague en 2022. L'ambassade d'Indonésie à Damas a rapatrié 20 travailleurs migrants indonésiens au PMI de Syrie à travers le rapatriement de la 5e vague le 19 mai. Le rapatriement est effectué par voie terrestre de Damas à Beyrouth et suivi de vol vers Jakarta avec transit à Abu Dhabi. L'un de ces PMI est un citoyen indonésien qui a travaillé pendant 11 ans en Syrie et qui n'a pas encore reçu de salaire. L'ambassade d'Indonésie à Damas a déployé divers efforts en collaborant avec des parties liées en Syrie afin qu'elle ait réussi à lutter pour le droit du salaire en question et à le rapatrier à l'Indonésie. Lors de la publication des PMI, l'ambassadeur indonésien en Syrie, Wajid Fauzi, a déclaré que le gouvernement indonésien a fait et continuera de faire de son mieux pour fournir des services et une protection aux citoyens indonésiens. Voyant la tendance à l'envoi de nombreux parents qui ne sont pas responsables des problèmes de PMI, L'ambassadeur a demandé aux citoyens indonésiens, PMI, d'être plus prudents lorsqu'ils acceptent des offres de travail à l'étranger pour éviter les problèmes lorsqu'ils travaillent à l'étranger. L'ambassadeur a également demandé à toutes les parties de mettre fin à la pratique d'envoi de travailleurs migrants non procéduraux qui n'est pas conforme aux dispositions légales. Le succès du rapatriement ne peut pas être séparé de la coopération et du soutien du ministère des Affaires étrangères, de l'ambassade indonésienne à Beyrouth, de l'Agence indonésienne de protection des travailleurs migrants, BM2MI, et d'autres parties liées. Chers auditeurs, c'était le compte diplomatique pour ce soir.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bonsoir, chers auditeurs. L'histoire d'aujourd'hui va commencer avec l'événement du 26 mai 1966, l'indépendance de Guyane. La Guyane est située au nord de l'Amérique latine. Bien que la région ait été découverte par des marins espagnols il y a environ 5 siècles, ce sont les Hollandais qui ont colonisé la Guyane. En 1796, les Britanniques prennent le contrôle de la colonie de Guyane. La Guyane est devenue indépendante de la domination, je veux dire de la domination britannique, le 26 mai 1966. En 1970, la Guyane est devenue une république. Passons maintenant à l'événement du 26 mai 1972. Les États-Unis et l'Union soviétique signent un accord sur la limitation des armements stratégiques SART-1. Le traité sur les balles antibalistiques est un traité entre les États-Unis et l'Union soviétique concernant les restrictions des systèmes de balles antibalistiques utilisés pour défendre le territoire contre les armes nucléaires transportées par des missiles. Les négociations entre les États-Unis et l'Union soviétique concernant pour parler sur la limitation des armements stratégiques, ou SALT, qui ont débuté en 1969, ont abouti à l'accord SALT-1 le 26 mai 1972. SALT-1 limite le nombre de lanceurs de missiles balistiques stratégiques au niveau existant et autorise l'ajout de nouveaux lanceurs de missiles balistiques SLMB. Je veux dire SLBM lancé par sous-marin uniquement. L'accord a été signé par le président des États-Unis, Richard Nixon, et le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, Leonid Brezhnev. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 26 mai 2005. L'économiste indonésien Radius Prawiro est décédé. Radius Prawiro est né à Yogyakarta le 29 juin 1928. Il est économiste et homme politique indonésien. Il a été l'un des fondateurs de l'économie indonésienne sous le règne du président Suharto. Radius Prawiro a occupé divers postes importants dans les domaines de l'économie et des finances. Il a été le haut fonctionnaire de l'agence de contrôle financier, le ministre des Finances, le gouverneur de la Banque d'Indonésie et est devenu un important représentant des institutions financières internationales. Radius Prawiro est décédé le 26 mai 2005 à Munich, en Allemagne, à l'âge de 76 ans, des suites de maladies cardiaques. Ses auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
C'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
C'est Zerita Bonsoir, voici mon Indonésie et en pour le titre, la réunion GPDRR 2022 présente trois grands thèmes pour discuter des risques de catastrophe. La réunion préparatoire sur la plateforme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe, GPDRR, s'est tenue les 23 et 24 mai 2022 à Nusa Dua, Bali. La réunion a présenté trois grands thèmes discutant de la réduction des risques de catastrophe. Les trois principaux thèmes de la réunion initiale étaient le forum des parties prenantes, la conférence mondiale sur la reconstruction 5, WRC5, et la conférence sur la lutte précoce multirisque 3, MHEWC3, qui présentera des intervenants de niveau national et international. La première réunion s'est tenue en présentiel et en virtuel, qui a réuni les acteurs intersectoriels avant l'ouverture officielle du GPDRR mercredi le 25 mai. La junte du BNPB pour le système et la stratégie, Raditya Jati, a déclaré lundi que la réunion du forum des parties prenantes visait à fournir un espace aux parties prenantes pour coordonner et échanger les meilleures pratiques autour de l'engagement inclusif, de la collaboration et de la préparation de la session officielle de plateforme mondiale. Le thème de la conférence mondiale pour la reconstruction 5 a été organisé conjointement par le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, la Facilité mondiale pour la prévention et la récupération des catastrophes, GFDRR, et l'Agence des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes, UNDRR, sous l'égide de la plateforme internationale de récupération IRP. Ce thème rassemble des participants des gouvernements nationaux et locaux, de la société civile, du secteur privé, des universités et des organisations internationales du monde entier pour partager leurs expériences. Tandis que le thème de la conférence sur la lutte précoce multirisque 3 vise à montrer comment la disponibilité de l'accès, l'utilisation de la lutte précoce multirisque et des informations sur les risques peuvent être améliorées pour mieux transmettre les aspirations du cadre de Sendai, de l'accord de Paris et des objectifs de développement durable, en particulier dans les efforts pour atteindre la cible G au cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe. L'Indonésie accueillera la 7e réunion du GPDRR qui a lieu du 23 au 28 mai 2022 à Nusa Dua, Bali. Le thème est « Du risque à la résilience vers un développement durable pour tous dans un monde en mutation » dû à la COVID-19. Ce thème est interprété par le gouvernement indonésien comme renforcement des partenariats vers une résilience durable. Ces auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
He ate the cake is pretty delicious.
Delicious.
You can tide it even when you think you're being cool.
Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Changez de tard, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Ses auditeurs, le Pongsus Pangdu de Rengani vient d'être inauguré le 3 mai 2022, coïncidant avec l'anniversaire de la ville de Bandung. Le Pongsus Pangdu de Rengani est considéré comme le plus long Pongsus Pangdu d'Asie du Sud-Est. Il s'étend sur 370 mètres de long et 75 mètres de haut. Le Pongsus Pangdu relie les touristes de l'entrée à l'emplacement du cratère Rengani. Avant la présence de Pongsus Pangdu, les touristes qui voulaient se rendre au cratère de Rengani devaient passer en sentier aménagé par les habitants avec une distance plus longue. Maintenant, ils peuvent marcher environ 300 mètres depuis l'extrémité de Pongsus Pangdu jusqu'à l'emplacement du cratère. Situé à une altitude de 1700 mètres au-dessous du niveau de la mer, l'étendue de la nature sauvage et des jardins de thé vert peut être vue depuis la région du cratère Rengani. De plus, du haut du pont, vous pouvez voir la rivière qui coule du mont Patua. Le Pongsus Pangdu de Rengani est composé des langues en fil d'acier emporté et a été testé par des chercheurs de l'usine. Lors de la construction, le concepteur et gestionnaire ont également consulté le centre de recherche et de développement pour les structures de pont du ministère des Travaux publics et du logement public. Pendant ce temps, le rez-de-chaussée du pont utilisait du bois de fer de Kalimantan. Pour la sécurité, les visiteurs qui passeront seront équipés d'une corde de sécurité attachée à une élingue en acier. La direction limite également la capacité des visiteurs qui passent sur le pont, qui n'est que de 70 personnes. Même s'il est sourd, il est conseillé à tous les visiteurs de continuer à se conformer aux réglementations applicables lorsqu'ils se trouvent au pont suspendu de Rengani, comme l'interdiction de fumer, l'interdiction de se rassembler à un moment donné, de ne pas courir et de ne pas secouer le pont. Le pont suspendu de Rengani est situé dans le village de Patengan, dans le district de Ranca Bali, dans la région de Bandung. Pour entrer dans cette zone, les touristes se voient proposer un ticket direct ou un ticket groupé. En plus du pont suspendu, vous pouvez visiter d'autres attractions touristiques dans le district de Ranca Bali, la région de Bandung. Tout d'abord, un forfait vaut 100 000 rupiah par personne. Avec le billet d'entrée, vous pouvez accéder à 4 destinations touristiques à la fois. Ce sont Glamping Lakeside, Tulemanege, Situ Patenggang, le cratère Rengganis et le pont suspendu de Rengganis. Deuxième moment, un forfait vaut 70 000 rupiah par personne, y compris le cratère de Renggani et le pont suspendu de Renggani. Puis intéressant, vous recevrez une verre de bienvenue sous forme de thé walini. Le pont suspendu de Renggani est ouvert tous les jours de 7h à 17h. Cependant, si vous souhaitez profiter d'un panorama au lever du soleil pour la photographie professionnel ou avant le mariage, vous pouvez réserver une visite anticipée à la direction à 5h30. C'est Zorita, c'était le magazine culturel pour ce soir.
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Bonsoir, chers amis, merci d'être fidèles à notre antenne, la voix de l'Indonésie. Voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Et cette fois, nous allons vous présenter l'équipe de Nawasena de l'Institut de technologie de 10 novembre remporte le concours international de conception de traversiers. L'équipe de Nawasena de l'Institut de technologie de 10 novembre, ou ITS, a remporté avec succès la première position sur la scène internationale. Lors du concours international de design 2022 organisé par l'Association mondiale de la sécurité de ferry, l'équipe du département d'ingénierie marine ITS a remporté avec succès la première position. Le superviseur de l'équipe ITS Nawasena, Dr. Ingénieur Agus Santoso, a révélé que son équipe n'a jamais été absente pour participer au concours de conception organisé par l'Association mondiale de la sécurité des ferries depuis 5 ans. Tirant les leçons de l'expérience de l'année dernière d'avoir dû de constater de la deuxième place, cette équipe continue de se développer et de s'efforcer d'obtenir les meilleurs résultats. Un membre de l'équipe Nawasena, Priscilla Putri Irene, a déclaré que la conception du navire MW Lakshmi était conçu pour pouvoir fonctionner sur la fleuve Brahmaputra Nandi. Le choix de la forme de la coque à l'innovation de ce navire est fait pour qu'il puisse être appliqué en fonction des conditions sur le terrain. Pour s'adapter aux basses des eaux, son groupe applique la technologie de double filtre au système de refroidissement du moteur pour empêcher l'entrée de sable et la forme de la coque bateau de débarquement recevoir. Priscilla a déclaré dans un concours en ligne, plusieurs aspects sont devenus les points de jugement des juges. Entre autres, les itinéraires d'opération, la construction de navires, l'aménagement spatial, les machines électricité des navires, l'analyse de stabilité, l'analyse économique des navires et les innovations appliquées à ce navire. Il a révélé qu'il y avait plusieurs défis lors de la conception d'un navire pouvant transporter d'un charge de 112,9 tonnes. L'un d'entre eux est l'adaptation de la conception des navires aux besoins et aux aspects logistiques relangis. De nombreuses études bibliographiques ont été menées pour connaître la disponibilité du carburant, des machines et la taille de véhicules à moteur couramment utilisés en Nandi. C'était la rubrique l'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
So hard I see, life is bittersweet, possibilities. Yeah, that's all I need. Oh, hold your head up high. Show 'em what you got.
Voice of Indonesia.
Terdiam izinkan ku jadi takdirmu. Menari bersamaku, temani bagi waktu. Jalani bersamaku, kau pastikan bahagia. Ku temani dirimu. Menari bersamaku, temani bagi waktu. Jalani bersamaku.
Georges Letar, c'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie et de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson de groupe musique Riff. Cherche l'état, Riff qui signifie « rythme dans la liberté », ce groupe de genre rock a été formé en 1994. Il se compose de 5 membres, à savoir Andy, chante, Jikun, guitare, Maggie, batterie, Ofi, guitare et Teddy, basse. Son premier album s'intitulait Raja, qui est sorti en 1997. Le single à succès de l'album qui contient 10 chansons est le single avec le titre Raja. Cette chanson a catapulté le nom Riff dans le rang des meilleurs groupes de rock en Indonésie. Bon, chers auditeurs, voici le groupe musique rock Riff. Va chanter une chanson intitulée Raja. Bonne écoute.
Jadi raja, kan ku bangun ini.
Bonjour Gétard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voiindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.